Au moment d'entrer dans la Semaine Sainte, la liturgie nous fait entendre une lecture complète de la Passion. Or, parler de la croix est mal commode, surtout dans un jeune podcast comme le Moulin à Paroles. Les prédications au sujet de la croix, hantées par des spiritualités doloristes, ont la réputation de faire fuir l'auditoire. Il est vrai que bien des églises vides autour de nous renferment à l'intérieur de vieilles odeurs de transpiration. On préfère maintenant annoncer le bonheur d'être aimé et la joie d'être sauvé, et souvent on a raison. Il reste que la liturgie cette Semaine Sainte nous ramènera sans cesse au pied de la croix, après qu'au long du carême, nous avons suivi Jésus au travers des oppositions constantes qui ont conduit à ce terrible drame. Alors, nous aussi, allons-y. Aujourd'hui, nous regarderons qui se tient autour de la croix et évoquerons aussi quelques-uns parmi ceux qui ne s'y trouvent pas. Vendredi qui vient, nous essaierons de comprendre ce qu'il s'y est passé. Commençons par ceux qui ne se trouvent pas autour de la croix ce jour-là. Évidemment, les premiers absents auxquels on pense sont les disciples, dont on ne manque pas de sermon en sermon d'évoquer la lâcheté, sans doute pour mieux faire valoir la solitude du Fils de Dieu rachetant l'humanité en ses larmes et son sang. Cependant, si ce dernier point est vrai, il faut tout de même une lecture plus précise de ce qui a démotivé les disciples à opérer ce coup de force, pour lequel pourtant ils semblaient prêts lorsque les troupes sont venues s'emparer de Jésus. J'aurais bien envie de faire cette lecture un jour. Cependant, nous nous intéresserons ici à d'autres absents auxquels on pense moins d'habitude. En ce temps-là, a-t-on entendu à la messe vendredi dernier, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Alors les frères de Jésus lui dirent « Ne reste pas ici, va en Judée pour que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais ». Au chapitre précédent, en effet, on avait appris que, suite au discours du pain de vie, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Ses frères lui suggèrent donc de récupérer les disciples que Jésus a perdus précédemment. Ils le considèrent comme un nouveau chef religieux dont l'influence et la notoriété pourraient faire de lui un personnage public important. Eux se voient bien dans la cour d'un roi et ils constatent que Jésus a le vent en poupe, si seulement il avait de telles intentions. En effet, dans le même chapitre, on lit « À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient « C'est vraiment lui, le prophète, annoncé, celui qui vient dans le monde !» Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. « On n'agit pas en secret quand on veut être un personnage public !» insistent donc ses frères. « Puisque tu fais de telles choses, il faut te manifester au monde !» Cela entendu, Jésus demeura tout de même en Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement mais en secret. On peut proposer une explication tout à fait plausible au fait que Jésus diffère le moment où il monte à Jérusalem, comme s'il ne voulait pas être vu avec ses « entre guillemets frères ». Alors, ceux que les évangélistes désignent comme ses frères constituent un groupe à côté d'autres groupes nommés aussi dans les évangiles, comme les disciples, ou le groupe des 12. Ce groupe des frères est celui qui accompagne la mère de Jésus quand ils demandent à lui parler, mais ne parviennent pas à l'atteindre en raison de la foule qui l'entoure, lit-on en Luc, chapitre 8, verset 20. Il peut s'agir de cousins germains, de membres proches qui ont vécu au village avec lui, parmi lesquels on trouve Jacques, frère du Seigneur. Celui-ci, ayant répondu à l'appel de Jésus à le suivre, a changé de groupe, en quelque sorte. En tant que disciple, il devient susceptible d'être exposé aux persécutions et sera d'ailleurs tué à coups de bâton et compté parmi les premiers martyrs. Jésus ne veut pas être reconnu avec sa famille, à la fois pour ne pas donner du crédit à une quelconque intention politique, à laquelle son entourage voudrait bien l'encourager, mais aussi pour ne pas qu'ils se trouvent impliqués eux aussi dans l'exécution qu'il subira bientôt en raison de ses motifs, entre autres. Jésus veille à se distancier de ses frères pour ne pas qu'ils soient inquiétés lors des événements qui surviendront. Il sait ce que Alexandre Janet a fait aux familles des pharisiens qu'il a exécutés 100 ans auparavant, et il veut écarter tout risque de sévice pour ceux avec qui il a vécu à Nazareth, quand bien même ceux-ci se trompent sur lui et, nous dit l'Évangile, ne croient pas en lui. Dans une émission précédente du Moulin à Paroles intitulée « Un crachat par terre », ben oui, ça s'appelle comme ça. J'évoquais la cruauté d'Alexandre Janet en restant imprécis pour préserver notre sommeil. Malheureusement, il convient maintenant d'en dire un mot. Lorsque ce roi cruel fit suspendre au bois les 800 pharisiens qui s'opposaient à son autorité politique, il ajouta à leur souffrance de faire égorger devant eux leurs femmes et leurs enfants, tandis que lui-même participait en même temps et au même endroit à un festin avec ses propres concubines. Qu'on ne trouve pas les frères de Jésus au pied de la croix pourrait bien s'expliquer pour ces raisons. À l'époque de Jésus, on n'hésite pas à s'en prendre à la famille de celui qu'on veut anéantir. La terreur infligée par ce moyen est toujours un levier puissant dans la main des oppresseurs politiques ou mafieux. Voilà ce qui concerne quelques-uns parmi les absents. Quant au présent, au pied de la croix, on compte 4 soldats qui se partagent la tunique de Jésus et bien sûr ceux que l'on trouve énumérés au verset 25. Or, lit-on, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. La tante de Jésus étant présente, on peut supposer que des cousins se trouvent aussi en ville, à l'écart du tumulte qui entoure son exécution. Les croix d'où jaillissent des cris sont des potences servies par des bourreaux armés et violents. L'endroit est sale, brutal et dangereux. Si la mère de Jésus peut se trouver là dans une certaine sécurité, c'est parce qu'elle bénéficie de la protection du disciple que Jésus aimait, lui qui est parvenu à faire entrer Pierre chez Caïphe parce qu'il était connu du grand prêtre, lit-on en Jean chapitre 18. Quant à la sœur de Marie, celle-ci l'accompagne pour la soutenir lors de cet épouvantable événement durant lequel son neveu est exécuté par l'occupant sous la pression des autorités religieuses et politiques. On compte aussi, près de la croix, quelques informateurs qui renseignent les commanditaires de l'exécution, c'est-à-dire les autorités religieuses et politiques. Ceux-ci ayant presque immédiatement, d'ailleurs, demandé à Pilate de changer le libellé de l'écriteau placé sur la croix, bien informés de tout ce qui se passait ici. À cela s'ajoutent enfin les badauds, avides de spectacles malsains. La crucifixion est une exécution spectaculaire inventée pour frapper les esprits. En crucifiant Jésus le Nazaréen, les Romains, la puissance occupante, recueillent l'assentiment des principaux partis influents qui consentent, chacun pour des raisons différentes, à la mort de Jésus. Les pharisiens et les scribes, parce qu'ils sont jaloux, c'est Pilate qui le dit au chapitre 27 de Matthieu, et l'élite religieuse et politique parce qu'elle grenouille autour du pouvoir. Pilate réalise donc un bon coup, même si les grands prêtres grincent un peu concernant les critos disant « roi des Juifs » et auraient préféré « voici ce qui arrive à celui qui prétend être le roi des Juifs ». Mais tout va bien en définitive. La situation aurait pu être plus coûteuse en soldats et la préservation de l'ordre public plus compliquée s'il avait fallu crucifier Barabbas. Tandis que les zélotes ou les sicaires ne bougeraient guère pour ce Jésus qui, somme toute, ne s'était jamais prononcé en leur faveur contre les politiques ou contre l'occupant. Il reste que le périmètre autour d'une crucifixion est un endroit extrêmement dangereux. La croix n'est pas un lieu fait pour nous. La croix n'est un lieu fait pour personne. Pourtant, c'est par ce supplice qu'est mort le Fils de Dieu, notre frère. En préparant une autre émission pour le Moulin à Parole, je suis tombé sur cette anecdote concernant saint François d'Assise. Un jour que François marchait tout seul près de l'église Sainte-Marie de la Portioncule, se lamentant et gémissant à haute voix, un homme s'approcha, touché de pitié pour celui qu'il prenait pour un infirme, et lui demanda pourquoi il pleurait ainsi. Alors François a répondu « Je pleure la passion de mon Seigneur, pour laquelle je ne devrais pas avoir honte d'aller par le monde entier en poussant de grands cris. » Alors l'homme se mit lui aussi à pleurer tout haut avec François sur la passion du Seigneur. C'est un de ces moments où François a compris le bien qu'il pouvait faire aux autres en parlant simplement de la croix de Jésus.